Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui publie vivement le libéralisme, dette publique, chômage, croissance, pouvoir d'achat, l'actualité économique décryptée chez Talendier, membre du comité éditorial de Pour l'écho avec un entretien exclusif de Jean Tirole à la une du numéro du mois de septembre. François Eckhall, fondateur de Fipeco.fr et professeur d'éco à Paris 1, je vous invite vraiment à aller régulièrement sur Fipeco.fr pour voir notamment les notes d'actualité et puis les notes d'analyse qui sont, enfin, si vous voulez comprendre un peu dans quel pays nous vivons, comment ça fonctionne, comment faire autrement aussi, car il y a des solutions, François. Il n'y a pas que des constats. Voilà, c'est quand même une bible absolue. Il devrait peut-être prendre un abonnement à Bercy, surtout que c'est gratuit.
Il l'utilise beaucoup.
Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, qui a coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez Emma Édition. Oui, Jean-Claude m'avait envoyé un mail et je sais qu'il a raison, car il nous écoute sur son PC. Et il dit, je dois mettre les graves à zéro, parce que sinon c'est boum, 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 boum pendant toute l'émission. Chaque fois que, pour appuyer votre propos, vous avez tendance, et c'est naturel, c'est humain, à donner des petits coups sur la table, en disant, oui, mais c'est donc ça qui... Et ben voilà, à chaque fois, ça fait boum, boum chez Jean-Claude, il n'est pas le seul, c'est insupportable. Il y a d'autres chaînes d'infos où c'est à peu près le même problème. Alors je vous assure, Jean-Claude, qu'on a un bon système de prise de son très professionnel, mais il faut être prudent en l'utilisant. Voilà. Donc j'ai bien lu votre mail. D'ailleurs, si vous voulez réagir pendant l'émission, ne m'envoyez pas des mails, car je n'ouvre pas ma boîte mail pendant l'émission. J'ouvre mon compte Twitter qui porte mon nom. C'est là où éventuellement vous pouvez m'envoyer des messages que je suis susceptible de reprendre, comme celui de Jo, qui écrit pour dire simplement merci pour votre objectivité et neutralité dans le traitement de l'actualité économique. Mention spéciale pour Jean-Marc Daniel.
Bon. J'étais prêt à taper du poing pour exprimer ma satisfaction.
Je reçois énormément de messages concernant Jean-Marc, y compris des gens qui ne le supportent pas, mais qui n'arrivent pas à s'en passer tellement ils sont passionnés par ce qu'il dit.
C'est l'homme que vous aimez détester.
Mais j'en ai quand même qui me disent heureusement qu'il est là. Voilà. Le rapport du corps. Alors, sur les retraites, il y a qui m'a posé une question là. Oui, au sujet des régimes spéciaux, vous parlez de la SNCF, me demande Torres. Parce que normalement, je crois que tout a été réformé, les nouveaux embauchés. C'est principalement les électriciens gaziers qu'on n'a pas envie de taquiner en ce moment. Vous voyez bien pourquoi. Le rapport du corps, vous avez regardé le rapport du corps, évidemment, Erwan Tison. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ce rapport du corps? Et puis après, on pourra revenir sur la méthode de l'amendement, tout ça.
Alors, 346 pages de pur plaisir que je conseille à tout le monde.
Vous avez tapé les 346?
Ouais, mais c'est relativement bien écrit. Il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup de tableaux. Mais c'est surtout un travail qui est sérieux. Donc je pense qu'on doit, quiconque prend la parole sur les retraites dans l'espace public se doit justement de respecter le travail qui est fait en allant au-delà de la deuxième page. Pourquoi je dis au-delà de la deuxième page? Parce que la plupart de ce qu'on a entendu, la plupart des commentaires qu'on a entendus de la part de ceux qui veulent, surtout ceux qui ne veulent pas réformer le système de retraite, c'est de dire on a fait 900 millions d'excédents l'année dernière, donc du coup, il n'y a aucun besoin de réformer, circuler, rien à voir.
Oui, c'était le grand titre. 3,2 milliards d'ailleurs cette année d'excédents.
Tout à fait. Et quand vous regardez d'ailleurs, tout le 100% de cet excédent en fait est tiré par un seul régime, qui est le régime complémentaire des salariés du privé. Tous les autres régimes sont structurellement déficitaires. Il y a plusieurs chiffres qui m'ont interpellé. Déjà, c'est les prévisions à long terme d'ici... On ne va pas revenir sur l'exercice de la prévision et la difficulté justement de prévoir à long terme. À long terme, nous sommes tous morts. Mais on voit quand même certaines tendances. Déjà de voir l'amplitude qu'il peut y avoir sur les dépenses publiques, on est entre 12% selon certaines hypothèses et 19%
de PIB
en dépenses publiques liées aux retraites. 19%, c'est grosso modo si on ne change rien et si on fait comme certains le veulent, l'indexation sur les salaires, des retraités sur les salaires. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir dans la réforme actuelle, pourquoi est-ce que la répartition est morte? Et pourquoi en fait...
La répartition est morte.
Pourquoi est-ce que la répartition... C'est pas un problème de borne d'âge, quelque part. Il y a un problème de stock, notamment au voisinage de 65 ans, 63 ans. C'est effectivement quelqu'un qui travaille une année de plus, il va en fait cotiser 30 000 euros de plus que ce qu'il va pouvoir recevoir. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pourquoi la répartition est morte? Parce que la population active, structurellement, va être en diminution. Le pic de la population active d'ici 2070, selon le corps, va être atteint en 2040. On aura 30 millions d'actifs à ce moment-là. On va gagner 20 000 actifs par an jusqu'en 2040. De 2040 à 2050, on va perdre 50 000 actifs par an. Et de 2050 à 2070, on va perdre 35 000 actifs par an. Ce qui fait que vous ajoutez à cela une espérance de vie qui est relativement stagnante, même légère diminution, mais il y a un effet conjoncturel là-dessus, une natalité qui va diminuer et des perspectives d'immigration qui là aussi vont diminuer. Ce qui fait que d'ici 2070, vous allez avoir par rapport à 2022, soit 7 millions de retraités en plus pour seulement 100 000 actifs. On pourrait dire de manière très simple, le nombre de retraités vont progresser 70 fois plus que sur la tendance. C'est un peu plus compliqué que ça, mais donc du coup, ça montre en fait que le problème réel qu'on a au niveau du financement des retraites, c'est un problème démographique. On va avoir beaucoup trop de retraités par rapport à la population active. Donc du coup, on voit
Ce qui vous fait dire, la répartition est morte.
La répartition est morte. En plus de cela, on voit que structurellement et mécaniquement, quels que soient les scénarios, donc on peut reprocher à certains scénarios d'être un peu trop optimiste, mais quels que soient les scénarios, on va assister à une paupérisation, une diminution du niveau de vie des retraités. Deux petits chiffres là-dessus. Le niveau de vie des retraités, donc, par rapport au salaire moyen, par rapport à la population active, va diminuer de 25 points dans les prochaines années. Aujourd'hui, un retraité gagne un niveau de vie 105% supérieur, donc 5% supérieur à celui justement d'un actif. On va atteindre 72 à 75% dans les années qui viennent. Le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la pension que vous avez
par rapport au précédent salaire,
il va diminuer de plus de 25 points. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vous disent aujourd'hui qu'il faut sauvegarder le système par répartition occultent complètement le volet démographique, et ceux qui vous disent qu'il ne faut surtout pas réformer assument de voir le niveau de vie des retraités de baisser de près de 30% dans les années qui viennent. Ce sont les mêmes qui demandent à ce qu'on réindexe sur l'inflation ou qu'on fasse un geste pour les retraités qui ne pourraient pas se chauffer cet hiver. Dernier point que nous appelle le corps, c'est la performance des quelques systèmes par capitalisation qu'on peut avoir dans notre système de par retraite.
Et il y en a du côté du secteur public.
Alors, il y en a deux en France, un du côté du secteur public qui est la RAF, donc le régime additionnel de la fonction publique, qui a quand même obtenu une performance en 2020 de 8%. Donc, a réussi à faire une performance financière et boursière de 8% dans un environnement où, je rappelle, 2020, ça a été la pire crise qu'on ait connue en après-guerre. Donc, on voit que la capitalisation, alors, on pourra me dire qu'effectivement, on n'est qu'à 45 milliards de dotations, donc on n'est pas non plus un fonds exceptionnel, mais rien que justement dans une année qui est extrêmement négative d'un point de vue économique, la capitalisation arrive à faire des petits. L'autre régime, c'est celui des pharmaciens. Les pharmaciens, leur régime est surdoté, surfinancé à hauteur de 140%. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, grâce au levier capitalisation, ils ont réussi à diminuer l'âge de départ en retraite. Ils sont passés en moyenne de 63 et quelques années à 60,2 années, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, grâce à la capitalisation, non seulement ils surfinancent leur caisse de retraite, mais en plus, ils arrivent à partir beaucoup plus tôt. Et donc du coup, il y a un autre levier capitalisation dans le système de, enfin qui peut ressembler à ça, qui est justement le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Jospin en 2001, qui justement prévoyait qu'il y a un gros fonds de 200 milliards qui puisse financer quelque part les pertes du système à terme. Aujourd'hui, il y a 20 milliards d'euros dessus, mais il a fait une performance en 2020 de plus de 9%. Donc en fait, on voit quoi ? On voit que la répartition est morte. De toute façon, c'est démographique. Ça ne sert à rien de la sauvegarder dans son entièreté. Qu'on assume aujourd'hui la paupérisation à venir des retraités, et que le peu de capitalisation qu'on a en France, parce qu'on a quand même des banquiers et des financiers de génie dans notre pays, arrive à surperformer même quand on a connu la pire crise depuis 1945. Donc si jamais on veut réformer les retraites, la borne d'âge ne servira strictement à rien, si ce n'est en fait à financer des dépenses publiques, donc du coup en fait à être une sorte d'impôt déguisé. Si on veut s'attaquer aux retraites, il nous faut une réforme structurelle, notamment sur le financement, et pour ça il faut la capitalisation.
Vos réactions, François Lécal, Jean-Marc Daniel, à la démonstration des Warren Tison. Allez-y, François
Lécal. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le problème auquel nous sommes confrontés est d'origine démographique. Il va y avoir la croissance des personnes âgées de plus de 60 ou 65 ans va être beaucoup plus rapide dans les 50 ans qui viennent que celle des personnes, disons, en âge de travailler, c'est-à-dire grosso modo entre 20 et 60 ou 20 et 65. Voilà. Donc on a un problème démographique. Dans le cadre des régimes par répartition actuels, la solution qui a été trouvée, qui permet en fait finalement d'à peu près d'équilibrer les régimes de retraite actuels à un horizon lointain, c'est une baisse du taux de remplacement des revenus d'activité par les pensions. Une baisse du taux de remplacement qui en fait est totalement mécanique, qui résulte de la législation actuelle et qui vient essentiellement du fait que les retraites sont indexées sur les prix, sur l'inflation, alors que les revenus d'activité en principe augmentent plus que l'inflation. Il y a des gains de pouvoir d'achat en principe normalement, en tout cas on peut penser qu'il va y en avoir sur le long terme. Donc ce mode d'indexation fait baisser le taux de remplacement. C'est pas une solution très satisfaisante. satisfaisant. Donc, il y en a une autre solution, ce qui est celle dont on parle aujourd'hui, qui est de se dire, bah, ce ratio démographique, il est tel qu'il est, mais on peut faire en sorte que les gens travaillent plus tard. On peut, et donc, on peut, donc le sujet à ce moment-là, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite.
La borne d'âge n'est quand même pas un outil complètement inutile.
La borne d'âge, elle est fixée par la réglementation, que ce soit l'âge minimal ou la durée minimale de cotisation pour avoir une retraite au tout plein. On peut jouer sur ces mécanismes et donc on peut rééquilibrer le système et, je dirais, sauver les régimes par répartition.
Ah,
est-ce que la capitalisation, c'est mieux ? Non, moi je n'y crois pas.
Ah.
Je n'y crois pas parce que fondamentalement, on n'échappera pas. La capitalisation ne permet pas d'échapper à ce problème démographique. De toute façon, que vous soyez en répartition ou en capitalisation, les revenus des retraités sont financés par un prélèvement sur les revenus d'activité. C'est, dans un cas, c'est des cotisations, dans l'autre cas, c'est des revenus du capital. Mais c'est pareil, c'est un revenu qui est prélevé sur la valeur ajoutée créée à un moment donné par les actifs. Si vous avez beaucoup moins d'actifs, eh ben vous pourrez prélever beaucoup moins. Donc vous n'échapperez pas, même dans un régime par capitalisation, vous n'échapperez pas au problème démographique. Donc je pense que je veux bien qu'il y ait un peu de capitalisation, j'ai toujours dit... D'accord, pour un peu de capitalisation, ça permet de mieux répartir les risques, ça a quelques avantages, mais je pense qu'il ne faut pas rêver. La capitalisation n'est pas la solution miracle à ce problème.
Avec vos deux regards et les différences qu'il peut y avoir entre les deux, enfin, vous nous décrivez quand même une impasse. Franchement, vous nous décrivez une impasse.
Bah, non. Pourquoi une impasse?
Ou alors, il faut vraiment travailler... Beaucoup plus.
Pas forcément beaucoup plus.
Non, bonjour Marc.
Non, pas forcément.
En essayant d'aller droit au but.
Je vais faire l'arbitre entre les deux. Je pense que la capitalisation est la solution à condition de l'utiliser pour aller chercher de la jeunesse. Là où François a raison. C'est que si on utilise la capitalisation pour rester sur le territoire national, on aura le problème démographique. En revanche, si le fonds.
On peut placer à l'étranger,
voilà,
bien sûr.
Si le fonds de pension place dans les pays jeunes, à ce moment-là, la jeunesse des pays jeunes va payer notre retraite. C'est la stratégie. Du Japon,
c'est la stratégie du Japon.
Il n'y a pas d'immigration, c'est clairement affiché, c'est assumé.
C'est un choix politique.
Mais vous avez un pays qui a dégagé énormément d'excédents extérieurs, qui a placé son épargne, et vous avez maintenant un pays qui vit, grosso modo, du travail de ses voisins. Donc, des Chinois, entre autres, mais des Indonésiens. Bon.
Donc, c'est un élément de réponse solide, ce que vous décrivez.
Exactement. Le véritable enjeu, c'est de persuader, c'est de persuader les ressortissants de ces pays étrangers de continuer à travailler pour
nous.
Je cite assez souvent une déclaration de Mme Merkel qui avait dit un jour, compte tenu de notre démographie, parce que l'Allemagne connaît les mêmes problèmes démographiques que nous, ce sont les Turcs qui paieront notre retraite. La seule question est de savoir s'ils la paieront en travaillant dans des usines sur notre territoire national ou en travaillant dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires. Et Erdogan avait dit, nous nous débrouillerons pour ne pas payer. Donc le véritable enjeu, c'est effectivement la capitalisation. Je pense que c'est la solution, mais il faut la gérer en ayant l'objectif d'aller chercher de la jeunesse, en sachant qu'il y a un problème de légitimité à faire payer cette jeunesse pour notre vieillesse.
Bon, je pense que si on utilise ce mot erroné, disons, dans ce qui ressemble à un futur amendement à la loi de finances de la sécurité sociale, ça va mal se passer.
Non, surtout, on ne peut pas le faire. Ce qu'il faut, c'est une vraie réforme anti-globale liée à la... Mais je ne suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même une inégalité flagrante qui s'opère d'un point de vue, je ne vais pas faire mon marxisme de base, mais vous avez une inégalité flagrante qui s'opère sur la liberté ultime qui est celle de décider de ne travailler ou de ne pas travailler selon le niveau de revenu. Vous avez la possibilité de continuer à pouvoir travailler au-delà de 65-70 ans quand vous avez les moyens de le faire et quand vous avez la possibilité de créer votre entreprise, etc. Quand vous êtes touché par la pénibilité du travail, quand vous avez aucune possibilité de faire de l'épargne, vous ne pouvez pas justement vous dire je quitte tout et puis je vis de manière très frugale c'est le mouvement des FIR aux États-Unis. Là qu'on voit, c'est des gens qui partent à la retraite à 39 ans parce qu'ils ont eu un énorme boom boursier, qu'ils ont de quoi vivre jusqu'à la fin de leur vie. Là, avec la capitalisation, c'est quand même la possibilité d'offrir à tout le monde, à ceux qui ont un taux d'épargne marginal négatif ou nul, la possibilité justement de pouvoir créer une propre épargne et donc du coup de pouvoir avoir les mêmes avantages que les classes, on va dire, supérieures. Donc je ne comprends même pas pourquoi est-ce que normalement ça devrait être la gauche qui devrait pousser absolument.
Ça a été à une époque.
En 1909, Jaurès à la Une de l'Humanité qui disait.
Le patronat était contre en disant mais la capitalisation, c'est les ouvriers qui vont être propriétaires de nos usines. C'est insupportable. Nous ne voulons pas ça.
C'est une réforme profondément marxiste.
On allait vers. Bon, il faudra inventer un autre mot que fonds de pension parce que c'est un gros mot aujourd'hui. Mais on allait vers des fonds de pension à la fin, Jospin. Là.
Oui, et puis, il avait commencé, oui, le rapport Chaffin a indiqué qu'il fallait faire des fonds de pension.
Allez retrouver cet article de Patrick Artus qui décrit pourquoi la capitalisation dans les retraites est une réforme de gauche. Et ça peut, et objectivement, ça peut s'argumenter. C'est pas la peine de venir pousser des hurlements systématiquement, considérant que les dividendes sont beaucoup trop généreux, et renoncer éternellement à vouloir en faire profiter tout le monde. C'est ce que c'est complètement débile ce que je dis, Jean-Marc.
Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que
parce qu'on peut considérer que c'est de la démagogie de journaliste.
Non. Je pense que c'est une façon de faire passer cette réforme, sachant que, comme le disait Tony Blair, il y a un moment où on doit se poser la question, non pas de savoir si c'est de gauche ou si c'est de droite,
et qu'est-ce qui fonctionne,
savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne.
Je suis bien d'accord. Je voulais vous poser la question. François Eckhall, parce que je sais que vous êtes beaucoup penché sur l'ensemble des finances publiques, y compris les finances locales. Alors, le grand message national de Bruno Le Maire, c'est on ne montera pas les impôts. Bon, certes, visiblement, on va étaler la suppression de la CVAE sur 2 années et ça ne se fera pas en 1 an. On n'en parle plus des droits de succession. On verra plus tard. Mais en fait, c'est du côté local que Bruno Le Maire n'a aucun levier. J'ai une espèce d'intuition qu'on va se faire matraquer localement par la fiscalité. Est-ce que je me trompe ?
Alors, oui et non. Oui et non. C'est vrai que les collectivités locales, historiquement, ont eu tendance à augmenter les taux d'imposition pour financer des dépenses qui allaient beaucoup plus vite que les dépenses de l'État en particulier. La taxe d'habitation a été supprimée. Or, c'était quand même le principal levier sur lequel elles avaient, les collectivités locales, un pouvoir de hausse des taux. Alors, il reste la taxe foncière.
Dans certaines villes, c'est plus de 10% de hausse.
Reste la taxe foncière. Donc, en effet, on peut se dire la taxe foncière, les taux de taxe foncière vont augmenter parce que les collectivités locales vont avoir besoin de financer des dépenses qui continuent à augmenter. Et donc, il y a un risque de hausse de la taxe foncière et des taxes associées, une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, etc.
La TEOM.
Voilà. Alors, après, la taxe d'habitation a été supprimée, mais elle a été remplacée. Elle a été remplacée par une fraction de TVA, donc par un impôt d'État qui augmente comme la TVA, donc qui augmente assez vite.
Mais il n'y a pas eu de hausse de TVA.
Il n'y a pas de hausse de TVA, mais si vous n'augmentez pas les taux de TVA, ils sont ce qu'ils sont, mais la TVA, elle augmente comme la consommation, elle augmente comme les prix.
Oui.
Là, elle est très dynamique.
Ah, elle est très dynamique. On a vu les recettes, 27 milliards de recettes exceptionnelles en 2022.
Elle augmente beaucoup. Et d'ailleurs, la situation...
C'est pas une hausse d'impôt, ça, François Eckhall, la TVA qui augmente.
Non, c'est pas des hausses d'impôt. Donc, c'est pas des hausses d'impôt. Et la situation des collectivités locales, elle est bonne, en ce moment. Les collectivités locales sont sorties de la crise avec une bonne situation financière. Elles ont quelques dettes, mais elles ont aussi, par exemple, des liquidités considérables. Il y a, l'année dernière, à fin 2021, il y a 80 milliards d'euros de trésorerie dans les caisses des collectivités locales. C'est énorme.
Donc, c'est une situation à peu près un peu exceptionnelle par rapport à...
C'est assez exceptionnel. Oui.
On en parle jamais.
Elles ont fait ça parce que finalement, c'est finalement de la bonne gestion. Elles ont emprunté en 2020-2021, justement en anticipant, en se disant que c'était le moment d'emprunter et en anticipant des hausses de taux. Donc elles ont emprunté ces 2 dernières années beaucoup plus qu'elles en avaient besoin en réalité. Donc, mais ça va leur permettre de moins emprunter une fois que maintenant que les taux d'intérêt sont remontés. Donc elles sont plutôt dans une bonne situation financière. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des hausses de taxes foncières locales parce que certaines villes auront besoin, n'arrivent pas à maîtriser leurs dépenses et auront besoin d'augmenter la taxe foncière. Mais je crois pas trop à une hausse généralisée quand même et très importante des taxes foncières.
Ceux qui vont quand même prendre cher, visiblement, c'est ceux qui continuent à payer la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Alors là,
c'est pareil.
Bon, après,
c'est comme
eu,
la taxe foncière.
Il y a eu plein d'idées qui ont été évoquées par le passé, qui n'ont pas toutes abouti. Mais enfin, une idée fiscale n'est jamais morte. Et de faire une taxe foncière progressive, une sorte d'impôt sur le revenu local.
Ça, c'est très très compliqué à gérer. En revanche, ce qui est envisageable, ce qui a été évoqué, d'ailleurs ça avait été voté il y a 20 à 30 ans, c'est un impôt sur le revenu local, une espèce de CSG, une CSG locale. Ça, c'est, techniquement, c'est possible.
Ouais. J'adore le sado-fiscalisme, Jean-Marc Daniel.
Ah, c'est effarant. Bon. Et juste une chose, moi, je suis régulièrement...
L'expression est de Jean-Marc Daniel.
Oui. Je suis assez régulièrement, par pure curiosité, la taxe Cabanon.
Oui, mais bon, ça c'est...
Tous les ans, au 1er
elle
janvier...
Elle existe. Au-delà de 5 mètres carrés, vous êtes taxé. C'est la GEMATI, je crois.
Et tous les ans, ça augmente, mais le taux augmente dans des proportions absolument invraisemblables.
C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui construisent leur cabanon et qui essayent de ne rien dire. Et après, on regarde les images satellites. Ah, une piscine pas déclarée. Ah, un cabanon qui fait 6 mètres carrés.
Ça, c'est du pur sado-fiscalisme.
EDF, qu'est-ce qui vous a pris, Erwan Tison, de... C'est déjà assez compliqué entre Jean-Bernard Lévy et l'État. Bon, là, vous avez vu, il y a 2 sénateurs qui publiaient une lettre ouverte dans l'Opinion il y a 2 jours pour clairement défendre Jean-Bernard Lévy par rapport à la responsabilité de l'État dans la gestion globale d'EDF et du dossier nucléaire. Vous prenez la plume dans le poing et là, vous écrivez pour une banque centrale de l'électricité. Quel est le message? Quelle est votre idée? Je vous écoute.
Dans mes jeunes années, quand j'étais jeune étudiant à l'Université de Strasbourg, quand les banques centrales étaient encore plus ou moins normalisées, il y avait un grand débat académique pour lequel je m'étais passionné, qui est très vieux, c'est celui de la règle contre la décision. Et c'est celui qui a animé notamment les banques centrales. Vous avez donc du coup l'idée, soit une banque centrale, on lui donne une règle, ce qui est le cas par exemple de la BCE, on lui donne une indépendance totale et elle a une règle à suivre, elle se doit d'avoir ce cap, elle ne doit pas déroger de ce cap-là. Ou alors vous avez des banques centrales qui du coup, on leur donne la décision, c'est-à-dire concrètement, elles sont plus rapides dans l'exécution, mais elles peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent, du coup, ce qui pose des problèmes à la fois de crédibilité et d'anticipation. La crédibilité des banques centrales au tournant des années 2000, et c'est quand même fait notamment avec la constitution et de la BCE et le traité de Maastricht, c'est fait autour justement de l'idée d'une banque, une monnaie ne peut être crédible que si la banque centrale émettrice est extrêmement rigoureuse dans la suivi de sa règle et totalement indépendante.
Oui, c'était la copie de la Bouba, quoi.
Exactement. Voilà. Quand j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressé au débat énergétique parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que je vais avoir froid cet hiver. J'ai regardé un petit peu l'historique d'EDF. Quand on regarde de ce qui s'est passé depuis Poglov, par exemple, en 1981, où on décide de fermer une centrale nucléaire pour gagner 2% d'intention de voix de la part des Verts, quand on décide de fermer Fessenheim pour gagner la reconnaissance de Martine Aubry, le fait qu'il n'y ait pas trop de députés qui soient justement dans son giron à elle, ou quand on décide de diminuer la part du nucléaire, etc., dans le mix énergétique, quand on décide de fermer Superphénix pour faire plaisir à Dominique Vanney, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est légitime du fait que une population française qui dispose d'un outil industriel et technologique extrêmement performant qu'est EDF se doivent justement de ne pas cuire son gigot entre 19h et 21h parce que un parti politique faisant moins de 2% a imposé justement dans les accords électoraux le fait de fermer tel et tel outil qui pourrait satisfaire notre souveraineté énergétique. Et je me suis dit que non. Donc je me suis posé la question, quelle serait du coup la façon qu'on pourrait avoir, la meilleure façon qu'on pourrait avoir de garantir le fait que ça ne se reproduise pas. Et je pense qu'un mécanisme similaire à celui des banques centrales, c'est-à-dire le fait de doter EDF, qui d'ailleurs son statut va être remodelé.
On va avoir le statut,
le fait de lui donner un statut qui lui garantisse une indépendance totale avec une règle simple qui est de produire de l'électricité de manière décarbonée à bas coût, assurant notre souveraineté énergétique sur notre territoire et pourquoi pas en Europe, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse justement faire pour EDF. Ça évitera d'une part d'avoir successivement des ministres de l'économie qui prennent leur téléphone deux fois par jour pour donner des injonctions contradictoires à un opérateur privé qui a besoin de long terme et qui ne peut pas réagir plusieurs fois dans les mêmes journées. Et ça permettra aussi de rendre notre politique énergétique complètement imperméable à tous les accords derrière boutique purement politiques qui se font et qui se font sur un sujet aussi sérieux que peut-être l'énergie. Donc le terme banque centrale est un petit peu provocateur. Ouais, j'entends, il est fait pour. Mais je pense qu'en fait, il faut vraiment que dans la nationalisation d'EDF, il faut que ça devienne un outil totalement indépendant plutôt qu'un outil totalement affaire au pouvoir politique.
Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette idée.
Une remarque, je pense effectivement qu'il faut que ce soit un outil totalement indépendant.
Je ne sais pas si ce statut existe, je comprends l'idée.
Mais la comparaison avec la Banque Centrale tient au fait que dans les deux cas...
C'est de la provocation, là.
Oui, non, c'est pas de la provocation. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ce sont des monopoles à qui on confie une mission. La question qui se pose, c'est est-ce que le caractère de monopole est une obligation? Moi, je pense que dans le domaine énergétique, il faut revenir à l'esprit d'avant 1946. Tout le monde salue Marcel Paul, la nationalisation, la monopolisation et l'étatisation. La France était dotée du meilleur réseau électrique de l'Europe occidentale en 1939 avec 363 compagnies d'électricité. Donc, l'électricité, ça n'a pas vocation à être systématiquement un monopole.
Et jamais, Jean-Marc.
L'indépendance, oui. Par la privatisation.
Oui, mais là, il y a un grand mais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme parc de centrales nucléaires et c'est pas avec 360 petits acteurs que vous allez pouvoir gérer ces...
Non, mais aux États-Unis et au Japon, elles sont privées, hein.
Ouais. Mais enfin bon.
Il faut pas faire ça.
Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai tapé sur le bureau.
D'ailleurs, la privatisation, en matière d'électricité, pour poursuivre, il faut distinguer deux choses. Hein. Il y a la production d'électricité, oui, et il y a le transport et la distribution d'électricité. Dans tous les pays, le transport et la distribution, c'est un monopole.
Oui.
Parce que c'est un monopole naturel régulé, d'ailleurs, contrôlé par une autorité indépendante. Donc ce schéma dans lequel on a une autorité indépendante qui contrôle, qui régule, qui fixe les prix, qui décide des investissements, on l'a, hein. on l'a pour enfin, la partie transport-distribution.
Oui, mais pour cette partie-là...
On l'a pas, et qui me pose relativement peu de problèmes, d'ailleurs. Et en revanche, on n'a pas, en effet, dans la partie production, qui est en concurrence avec, entre une entreprise publique, des entreprises privées, enfin voilà, il y a des importations.
Tapez pas sur la table, on s'en écale, Jean-Claude va m'écrire tous les jours.
Travaille de l'amour.
Non, mais je... Dans ce débat entre Jean-Bernard Lévy et l'État, moi, je penche quand même sérieusement du côté de Jean-Bernard Lévy.
Je pense que EDF a fait des erreurs, hein. C'est comme assez frappant. Mais après, l'État ne l'a pas aidé. Voilà.
C'est sûr que
quand on inscrit une stratégie dans une perspective de déclin de l'énergie nucléaire...
Et qu'on change d'avis
d'avis tout le temps, c'est pas motivant pour aller recruter des jeunes ingénieurs clairement. Et leur dire le nucléaire, c'est l'avenir, venez chez EDF et venez construire des centrales. EDF, je pense, a perdu la main sur certaines technologies, d'où une partie des problèmes actuels.
C'est pas EDF non plus qui décide d'avoir l'obligation de vendre plusieurs kilowattheures à perte et éventuellement de changer d'ailleurs les ratios de vente au tarif Arenh quand ça arrange le pouvoir public pour pouvoir subventionner
les pouvoirs publics n'ont pas aidé EDF, c'est clair.
D'ailleurs, ils ont du mal à trouver le remplaçant. Qui a envie pour 450 000 euros d'aller mettre les mains là-dedans. Bon, il nous reste une minute, donc je n'ouvre pas le dernier sujet. Le dernier sujet, c'était ce chiffre de l'INSEE. Mais on en reparlera, parce que c'est assez fascinant. Un Français sur deux n'arrive pas à sortir d'un bas salaire. Et l'INSEE a regardé, en fait, le niveau des salariés français en 2015, et puis a regardé, 4 ans plus tard, comment est-ce que les choses avaient évolué. Et on arrive, effectivement, à peu près à un sur deux qui, soit n'a pas réussi à sortir d'un bas salaire, donc bas salaire, les deux tiers du salaire médian, enfin, en dessous des deux tiers du salaire médian. Le salaire médian est à 1950 euros net. C'est-à-dire, quand on est sous 1310 euros net, c'est-à-dire à peu près, presque, c'est un tout petit peu plus que le SMIC. Et quand on regarde 4 ans plus tard, il y a ceux qui sont toujours coincés. Il y a ceux qui sont plus salariés et il y a ceux qui sont au chômage et qui touchent des allocations. Ça fait effectivement un Français sur deux qui n'arrive pas à sortir d'un bas salaire. On en reparlera, puis sont les femmes, les moins de 26 ans et les actifs du tertiaire qui sont les plus concernés. On a terminé, merci Jean-Marc Daniel. Merci Erwan Tison, on peut donc vous lire dans Le Point, qui sort là. François Eckhall, Fipeco.fr, la Bible absolue pour comprendre le pays dans lequel nous vivons. Et on se retrouve demain à 9h.